Ce jour devait être un jour de joie pour César. Le secrétaire particulier du roi, M. de Vandenesse, vint au bureau lui parler. Ils sortirent ensemble dans la petite cour de la caisse d'amortissement. « Monsieur Birotteau, dit le vicomte de Vandenesse, vos efforts pour payer vos créanciers ont été par hasard connus du roi. Sa Majesté, touchée d'une conduite si rare, et sachant que, par humilité, vous ne portiez pas l'ordre de la Légion d'honneur, m'envoie vous ordonner d'en reprendre l'insigne. Puis, voulant vous aider à remplir vos obligations, elle m'a chargé de vous remettre cette somme, prise sur sa cassette particulière, en regrettant de ne pouvoir faire davantage. Que ceci demeure dans un profond secret, car Sa Majesté trouve peu royale la divulgation officielle de ses bonnes œuvres, dit le secrétaire intime, en remettant 6 000 francs à l'employé, qui pendant ce discours éprouvait des sensations inexprimables. Birotteau n'eut sur les lèvres que des mots sans suite à balbutier. Vandenesse le salua de la main en souriant. Le sentiment qui animait le pauvre César est si rare dans Paris que sa vie avait insensiblement excité l'admiration. Joseph Lebas, le juge Popineau, Camusot, l'abbé Loraux, Ragon, le chef de la maison importante où était Césarine, Lourdois, monsieur de la Billardière, en avait parlé. L'opinion, déjà changée à son égard, le portait au nu. « Voilà un homme d'honneur !» Ce mot avait déjà plusieurs fois retenti à l'oreille de César quand il passait dans la rue, et lui donnait l'émotion qu'éprouve un auteur en entendant dire « Le voilà !» Cette belle renommée assassinait du Tillet. Quand César eut les billets de banque envoyés par le souverain, sa première pensée fut de les employer à payer son ancien commis. Le bonhomme alla rue de la Chaussée-d'Antin, en sorte que quand le banquier rentra chez lui de ses courses, il s'y rencontra dans l'escalier avec son ancien patron. « Eh bien, mon pauvre Birotteau, dit-il d'un air patelin. « Pauvre ! S'écria fièrement le débiteur. « Je suis bien riche. Je poserai ma tête sur mon oreiller ce soir avec la satisfaction de savoir que je vous ai payé. » Cette parole pleine de probité fut une rapide torture pour Du Tillet, car, malgré l'estime générale, il ne s'estimait pas lui-même. Une voix inextinguible lui criait « Cet homme est sublime !»« Me payer ? Quelles affaires faites-vous donc ?» Sûr que Du Tillet n'irait pas répéter sa confidence, l'ancien parfumeur dit « Je ne reprendrai jamais les affaires, monsieur. Aucune puissance humaine ne pouvait prévoir ce qui m'est arrivé. Qui sait si je ne serais pas victime d'un autre Roguin ? Mais ma conduite a été mise sous les yeux du roi. Son cœur a daigné compatir à mes efforts, et il les a encouragés en m'envoyant à l'instant une somme assez importante qui... « Vous faut-il une quittance ?» dit Du Tillet en l'interrompant. « Payez-vous ?»« Intégralement, et même les intérêts. Aussi vais-je vous prier de venir à 2 pas d'ici chez Monsieur Crottat. »« Par devant notaire ?»« Mais monsieur, dit César, il ne m'est pas défendu de songer à la réhabilitation, et les actes authentiques sont alors irrécusables. »« Allons, dit Du Tillet qui sortit avec Birotteau. « Allons, il n'y a qu'un pas. Mais où prenez-vous tant d'argent ? » reprit-il. « Je ne le prends pas, dit César. Je le gagne à la sueur de mon front. »« Vous devez une somme énorme à la maison Claparon. »« Hélas, oui. Là est ma plus forte dette. Je crois bien mourir à la peine. »« Vous ne pourrez jamais le payer, » dit durement Du Tillet. « Il a raison, » pensa Birotteau. Le pauvre homme, en revenant chez lui, passa par la rue Saint-Honoré, par mégarde, car il faisait toujours un détour pour ne pas voir sa boutique ni les fenêtres de son appartement. Pour la première fois depuis sa chute, il revit cette maison où 18 ans de bonheur avaient été effacés par les angoisses de 3 mois. « J'avais bien cru finir là mes jours, » se dit-il en hâtant le pas. Il avait aperçu la nouvelle enseigne. Célestin Crevel, successeur de César Birotteau.
« J'ai la berlue ! N'est-ce pas Césarine ? » s'écria-t-il, en se souvenant d'avoir aperçu une tête blonde à la fenêtre. Il vit effectivement sa fille, sa femme et Popineau. Les amoureux savaient que Birotteau ne passait jamais devant son ancienne maison. Incapables d'imaginer ce qui lui arrivait, ils étaient venus prendre quelques arrangements relatifs à la fête qu'ils méditaient de donner à César. Cette bizarre apparition étonna si vivement Birotteau qu'il resta planté sur ses jambes. « Voilà Monsieur Birotteau qui regarde son ancienne maison, » dit Monsieur Molineux au marchand établi en face de la Reine des Roses. « Pauvre homme, » dit l'ancien voisin du parfumeur, « il a donné là un des plus beaux bals. Il y avait 200 voitures. »« J'y étais,
Il a fait faillite 3 mois après, dit Molineux. J'ai été syndic. Birotteau se sauva, les jambes tremblantes, et accourut chez son oncle Pierrot. Pierrot, instruit de ce qui s'était passé rue des 5 Diamants, pensait que son neveu soutiendrait difficilement le choc d'une joie aussi grande que celle causée par sa réhabilitation, car il était le témoin journalier des vicissitudes morales de ce pauvre homme, toujours en présence de ses inflexibles doctrines relatives aux faillis et dont toutes les forces étaient employées à toute heure. L'honneur était pour César un mort qui pouvait avoir son jour de Pâques. Cet espoir rendait sa douleur incessamment active. Pierrot prit sur lui de préparer son neveu à recevoir la bonne nouvelle. Quand Birotteau rentra chez son oncle, il le trouva pensant au moyen d'arriver à son but. Aussi la joie avec laquelle l'employé raconta le témoignage d'intérêt que le roi lui avait donné parut-elle de bon augure à Pierrot, et l'étonnement d'avoir vu Césarine à la Reine des Roses fut-il une excellente entrée en matière. « Eh bien, César, dit Pierrot, sais-tu d'où cela te vient ?» De l'impatience qu'a Popino d'épouser Césarine. Il n'y tient plus, et ne doit pas, pour tes exagérations de probité, laisser passer sa jeunesse à manger du pain sec à la fumée d'un bon dîner. Popino veut te donner les fonds nécessaires au paiement intégral de tes créanciers. Il achète sa femme, dit Birotteau. N'est-ce pas honorable de faire réhabiliter son beau-père? Mais il y aurait lieu à contestation. D'ailleurs, dit l'oncle en jouant la colère, tu peux avoir le droit de t'immoler, mais tu ne saurais immoler ta fille. Il s'engagea à la plus vive discussion, que Pierrot échauffait à dessein. Eh, si Popino ne te prêtait rien, s'écria Pierrot, s'il t'avait considéré comme son associé, s'il avait regardé le prix donné à tes créanciers pour ta part dans l'huile comme une avance de bénéfice afin de ne pas te dépouiller, j'aurais l'air d'avoir de concert avec lui trompé mes créanciers. Pierrot feignit de se laisser battre par cette raison. Il connaissait assez le cœur humain pour savoir que, durant la nuit, le digne homme se querellerait avec lui-même sur ce point, et cette discussion intérieure l'accoutumait à l'idée de sa réhabilitation. « Mais pourquoi, dit-il en dînant, ma femme et ma fille étaient-elles dans mon ancien appartement ?»« Anselme veut le louer pour s'y loger avec Césarine. Ta femme est de son parti. » S'entend rien dire, ils sont allés faire publier les bans, afin de te forcer à consentir. Popino dit qu'il aura moins de mérite à épouser Césarine après ta réhabilitation. Tu prends les 6 000 francs du roi? Tu ne veux rien accepter de tes parents? Moi, je puis bien te donner quittance de ce qui me revient. Me refuserais-tu? Non, dit César, mais cela ne m'empêcherait pas d'économiser pour vous payer malgré la quittance. Subtilité que tout cela, dit Pierrot, et sur les choses de probité, je dois être cru. « Quelle bêtise as-tu dite tout à l'heure? Auras-tu trompé tes créanciers quand tu les auras tous payés ?» En ce moment, César examina Pierrot, et Pierrot fut ému de voir, après 3 années, un plein sourire animant pour la première fois les traits attristés de son pauvre neveu. « C'est vrai, dit-il, il serait payé, mais c'est vendre ma fille. »« Et je veux être acheté !» cria Césarine en apparaissant avec Popino. Les deux amants avaient entendu ces derniers mots en entrant sur la pointe des pieds dans l'antichambre du petit appartement de leur oncle, et Madame Birotteau les suivait. Tous trois avaient couru en voiture chez les créanciers qui restaient à payer pour les convoquer le soir chez Alexandre Crottat où se préparaient les quittances. La puissante logique de l'amoureux Popino triompha des scrupules de César, qui persistait à se dire débiteur, à prétendre qu'il fraudait la loi par une novation. Il fit céder les recherches de sa conscience à un cri de Popino. « Vous voulez donc tuer votre fille ?»«
Tuer ma fille, » dit César hébété.
« Eh bien, dit Popino, j'ai le droit de vous faire une donation entre vifs de la somme que consciencieusement je crois être à vous chez moi. Me refuseriez-vous ?»«
Non, dit César.
Eh bien, allons chez Alexandre Crottat ce soir, afin qu'il n'y ait plus à revenir là-dessus. Nous y déciderons en même temps notre contrat de mariage. »
Une demande en réhabilitation et toutes les pièces à l'appui furent déposées par les soins de Derville au parquet du procureur général de la Cour royale de Paris. Pendant le mois que durèrent les formalités et les publications des bans pour le mariage de Césarine et d'Anselme, Birotteau fut agité par des mouvements fébriles. Il était inquiet. Il avait peur de ne pas vivre jusqu'au grand jour où l'arrêt serait rendu. Son cœur palpitait sans raison, disait-il. Il se plaignait de douleurs sourdes dans cet organe aussi usé par les émotions de la douleur qu'il était fatigué par cette joie suprême. Les arrêts de réhabilitation sont si rares dans le ressort de la Cour royale de Paris qu'il s'en prononce à peine 1 en 10 années.
Pour les gens qui prennent au sérieux la société, l'appareil de la justice a je ne sais quoi de grand et de grave. Les institutions dépendent entièrement des sentiments que les hommes y attachent et des grandeurs dont elles sont revêtues par la pensée. Aussi, quand il n'y a plus, non pas de religion, mais de croyance chez un peuple, quand l'éducation première y a relâché tous les liens conservateurs en habituant l'enfant à une impitoyable analyse, une nation est-elle dissoute? Elle ne fait plus corps que par les ignobles soudures de l'intérêt matériel, par les commandements du culte que crée l'égoïsme, bien entendu. Nourri d'idées religieuses, Birotteau acceptait la justice pour ce qu'elle devrait être aux yeux des hommes, une représentation de la société même, une auguste expression de la loi consentie, indépendante de la forme sous laquelle elle se produit. Plus le magistrat est vieux, cassé, blanchi, plus solennel est d'ailleurs l'exercice de son sacerdoce, qui veut une étude si profonde des hommes et des choses, qui sacrifie le cœur et l'endurcit à la tutelle d'intérêts palpitants. Ils deviennent rares, les hommes qui ne montent pas sans de vives émotions l'escalier de la cour royale au vieux palais de justice à Paris. Et l'ancien négociant était un de ces hommes. Peu de personnes ont remarqué la solennité majestueuse de cet escalier si bien placé pour produire de l'effet. Il se trouve en haut du péristyle extérieur qui orne la cour du palais, et sa porte est au milieu d'une galerie qui mène d'un bout à l'immense salle des pas perdus, de l'autre à la Sainte-Chapelle, deux monuments qui peuvent rendre tout mesquin autour d'eux. L'église de Saint-Louis est un des plus imposants édifices de Paris, et son abord a je ne sais quoi de sombre et de romantique au fond de cette galerie. La grande salle des pas perdus offre au contraire une échappée pleine de clarté, et il est difficile d'oublier que l'histoire de France se lie à cette salle. Cet escalier doit donc avoir quelque caractère assez grandiose, car il n'est pas trop écrasé par ces deux magnificences. Peut-être l'âme y est-elle remuée, à l'aspect de la place où s'exécutent les arrêts, vue à travers la riche grille du palais. L'escalier débouche sur une immense pièce, l'antichambre de celle où la cour tient les audiences de sa première chambre et qui forme la salle des pas perdus de la cour. Jugez quelles émotions dut éprouver le failli qui fut naturellement impressionné par ces accessoires en montant à la cour entouré de ses amis, Lebas, le président du tribunal de commerce, Camusot, son juge-commissaire, Ragon, son patron, Monsieur l'abbé Loraux, son directeur. Le saint prêtre fit ressortir ses splendeurs humaines par une réflexion qui les rendit encore plus imposantes aux yeux de César. Pillerault, ce philosophe pratique, avait imaginé d'exagérer par avance la joie de son neveu pour le soustraire au danger des événements imprévus de cette fête. Au moment où l'ancien négociant finissait sa toilette, il avait vu venir ses vrais amis qui tenaient à honneur de l'accompagner à la barre de la cour. Ce cortège développa chez le brave homme un contentement qui le jeta dans l'exaltation nécessaire pour soutenir le spectacle imposant de la cour. Birotteau trouva d'autres amis réunis dans la salle des audiences solennelles, où siégeait une douzaine de conseillers. Après l'appel des causes, l'avoué de Birotteau fit la demande en quelques mots. Sur un geste du premier président, l'avocat général, invité à donner ses conclusions, se leva. Le procureur général, l'homme qui représente la vindicte publique, allait demander lui-même de rendre l'honneur au négociant, qui n'avait fait que l'engager. Cérémonie unique, car le condamné ne peut être que gracié. Les gens de cœur peuvent imaginer les émotions de Birotteau quand il entendit M. de Marchangy prononçant un discours dont voici l'abrégé. « Messieurs, dit l'avocat général, le 16 janvier 1820, Birotteau fut déclaré en état de faillite par un jugement du tribunal de commerce de la Seine. Le dépôt du bilan n'était occasionné ni par l'imprudence de ce commerçant, ni par de fausses spéculations, ni par aucune raison qui pût entacher son honneur. Nous éprouvons le besoin de le dire hautement. Son malheur fut causé par un de ces désastres qui se sont renouvelés à la grande douleur de la justice et de la ville de Paris. Il était réservé à notre siècle, où fermentera longtemps encore le mauvais levain des mœurs et des idées révolutionnaires, de voir le notariat de Paris s'écarter des glorieuses traditions des siècles précédents, et produire en quelques années autant de faillites qu'il s'en est rencontré dans deux siècles sous l'ancienne monarchie. La soif de l'or, rapidement acquis, a gagné les officiers ministériels, ses tuteurs de la fortune publique, ses magistrats intermédiaires. Il y eut une tirade sur ce texte où l'avocat général dévoué aux Bourbons trouva moyen d'incriminer les libéraux, les bonapartistes et autres ennemis du trône. L'événement a prouvé que ce magistrat et son chef, M. Bellard, avaient raison dans leurs appréhensions. La fuite d'un notaire de Paris, qui emportait les fonds déposés chez lui par Birotteau, décida la ruine de l'impétrant, reprit-il. La cour a rendu dans cette affaire un arrêt qui prouve à quel point la confiance des clients de Roguin fut indignement trompée. Un concordat intervint. Nous ferons observer que les opérations ont été remarquables par une pureté qui ne se rencontre en aucune des faillites scandaleuses par lesquelles le commerce de Paris est journellement affligé. Les créanciers de Birotteau trouvèrent les moindres choses que l'infortuné posséda. Ils ont trouvé, messieurs, ses vêtements, ses bijoux, enfin les choses d'un usage purement personnel, non seulement à lui, mais à sa femme, qui abandonna tous ses droits pour grossir l'actif. Birotteau, dans cette circonstance, a été digne de la considération que lui avaient valu ses fonctions municipales. Il était adjoint au maire du 2e arrondissement et venait de recevoir la décoration de la Légion d'honneur, accordée autant au dévouement du royaliste qui luttait en vendémiaire sur les marches de Saint-Roch, à leur teinte de son sang, qu'au magistrat consulaire estimé pour ses lumières, aimé pour son esprit conciliateur, et au modeste officier municipal qui venait de refuser les honneurs de la mairie, en indiquant un plus digne, l'honorable baron de la Billardière, un des nobles vendéens qu'il avait appris à estimer dans les mauvais jours.
« Cette phrase est meilleure que la mienne !» dit César à l'oreille de son oncle.
Aussi, les créanciers, trouvant 60% de leurs créances par l'abandon que ce loyal négociant faisait, lui, sa femme et sa fille, de tout ce qu'ils possédaient, ont-ils consigné les expressions de leur estime dans le concordat, qui intervint entre eux et leurs débiteurs, et par lequel ils lui faisaient remise du reste de leurs créances. Ces témoignages se recommandent à l'attention de la cour par la manière dont ils sont conçus. Ici, l'avocat général lut les considérants du concordat. En présence de ces bienveillantes dispositions, messieurs, beaucoup de négociants auraient pu se croire libérés, ils auraient marché fiers sur la place publique. Loin de là, Birotteau, sans se laisser abattre, forma dans sa conscience le projet d'arriver au jour glorieux qui se lève ici pour lui. Rien ne l'a rebuté. Une place fut accordée par notre bien-aimé souverain pour donner du pain aux blessés de Saint-Roch. Le failli en réserva les appointements à ses créanciers, sans y rien prendre pour ses besoins, car le dévouement de la famille ne lui a pas manqué. Birotteau pressa la main de son oncle, en pleurant. Sa femme et sa fille versaient au trésor commun les fruits de leur travail. Elles avaient épousé la noble pensée de Birotteau. Chacune d'elles est descendue de la position qu'elle occupait pour en prendre une inférieure. Ces sacrifices, messieurs, doivent être hautement honorés. Ils sont les plus difficiles de tous à faire. Voici quelle était la tâche que Birotteau s'était imposée. Ici, l'avocat général lut le résumé du bilan en désignant les sommes qui restaient dues et les noms des créanciers. Chacune de ces sommes, intérêts compris, a été payée, messieurs, non par des quittances sous signature privée qui appellent la sévérité de l'enquête, mais par des quittances authentiques par lesquelles la religion de la cour ne saurait être surprise et qui n'ont pas empêché les magistrats de faire leur devoir en procédant à l'enquête exigée par la loi. Vous rendrez à Birotteau, non pas l'honneur, mais les droits dont il se trouvait privé, et vous ferez justice. De semblables spectacles sont si rares à notre audience que nous ne pouvons nous empêcher de témoigner à l'impétrant combien nous applaudissons à une telle conduite que déjà d'augustes protections avaient encouragée. Puis, il lut ses conclusions formelles en style de palais. La cour délibéra sans sortir, et le président se leva pour prononcer l'arrêt. « La cour, » dit-il en terminant, « me charge d'exprimer à Birotteau la satisfaction qu'elle éprouve à rendre un pareil arrêt. Greffier, appelez la cause suivante. » Birotteau, déjà vêtu du caftan d'honneur que lui passaient les phrases pompeuses de Marchangy, homme assez littéraire, fut foudroyé de plaisir en entendant la phrase solennelle dite par le premier président de la première cour du royaume et qui accusait des tressaillements dans le cœur de l'impassible justice humaine. Il ne put quitter sa place à la barre, il y parut cloué, regardant d'un air hébété les magistrats comme des anges qui venaient lui rouvrir les portes de la vie sociale. Son oncle le prit par le bras et l'attira dans la salle. César, qui n'avait pas obéi à Louis XVIII, mit alors machinalement le ruban de la Légion à sa boutonnière, fut aussitôt entouré de ses amis et porté en triomphe jusque dans la voiture. « Où me conduisez-vous, mes amis ? » dit-il à Joseph Lebas, à Pirot et à Ragon. « Chez vous ? » ?»« Non, il est 3 heures, je veux entrer à la bourse et user de mon droit. » À la bourse, dit Pierrot au cocher, en faisant un signe expressif à Lebas, car il observait chez le réhabilité des symptômes inquiétants. Il craignait de le voir devenir fou. L'ancien parfumeur entra dans la bourse, donnant le bras à son oncle et à Lebas, ces deux négociants vénérés. Sa réhabilitation était connue. La première personne qui vit les trois négociants, suivie par le vieux Ragon, fut Du Tillet. « Ah, mon cher patron, je suis enchanté de savoir que vous vous en soyez tiré. J'ai peut-être contribué par la facilité avec laquelle je me suis laissé tirer une plume de l'aile par le petit Popinot. À cet heureux dénouement de vos peines, je suis content de votre bonheur, comme s'il était le mien. » « Vous ne pouvez pas l'être autrement, dit Pierrot, ça ne vous arrivera jamais. »« Comment l'entendez-vous, monsieur ? » dit Du Tillet. « Parbleu, du bon côté, dit Lebas, en souriant de la malice vengeresse de Pierrot, qui, sans rien savoir, regardait cet homme comme un scélérat. » Matifat reconnut César. Aussitôt les négociants les mieux famés entourèrent l'ancien parfumeur et lui firent une ovation boursière. Il reçut les compliments les plus flatteurs, des poignées de main qui réveillaient bien des jalousies, excitaient quelques remords, car sur 100 personnes qui se promenaient là, 30 avaient liquidé. Gigonnet et Gobseck, qui causaient dans un coin, regardèrent le vertueux parfumeur comme les physiciens ont dû regarder le premier gymnote électrique qui leur fut amené. Ce poisson, armé de la puissance d'une bouteille de LED, est la plus grande curiosité du règne animal. Après avoir aspiré l'encens de son triomphe, César remonta dans son fiacre et se mit en route pour revenir dans sa maison où se devait signer le contrat de mariage de sa chère Césarine et du dévoué Popinot. Il avait un rire nerveux qui frappa ses trois vieux amis. Un défaut de la jeunesse de croire tout le monde fort comme elle est forte, défaut qui tient d'ailleurs à ses qualités. Au lieu de voir les hommes et les choses à travers des besicles, elle les colore des reflets de sa flamme et jette son trop de vie jusque sur les vieilles gens. Comme César et Constance, Popinot conservait dans sa mémoire une fastueuse image du bal donné par Birotteau. Durant ces 3 années d'épreuve, Constance et César avaient, sans se le dire, souvent entendu l'orchestre de Collinet, revu l'assemblée fleurie et goûté cette joie si cruellement punie, comme Adam et Ève durent penser parfois à ce fruit défendu qui donna la mort et la vie à toute leur postérité, car il paraît que la reproduction des anges est un des mystères du ciel. Mais Popinot pouvait songer à cette fête sans remords, avec délice. Césarine, dans toute sa gloire, s'était promise à lui, pauvre, pendant cette soirée de son triomphe. Il avait eu l'assurance d'être aimé pour lui-même. Aussi, quand il avait acheté l'appartement restauré par Grindot à Célestin, en stipulant que tout y resterait intact, quand il avait religieusement conservé les moindres choses appartenant à César et à Constance, rêvait-il de donner son bal, un bal de noces. Il avait préparé cette fête, avec amour, en imitant son patron, seulement dans les dépenses nécessaires et non dans les folies. Les folies étaient faites. Ainsi le dîner dut être servi par chevet. Les convives étaient à peu près les mêmes. L'abbé Loureau remplaçait le grand chancelier de la Légion d'honneur. Le président du tribunal de commerce Lebas n'y manquait point. Popinot invita M. Camusot pour le remercier des égards qu'il avait prodigués à Birotteau. M. de Vandenesse et M. de Fontaine vinrent à la place de Roguin et de sa femme. Césarine et Popinot avaient distribué leurs invitations pour le bal avec discernement. Toutes deux redoutaient également la publicité d'une noce. Ils avaient évité les froissements qui ressentent les cœurs tendres et purs, en imaginant de donner le bal pour le jour du contrat. Constance avait retrouvé cette robe cerise, dans laquelle, pendant un seul jour, elle avait brillé d'un éclat si fugitif. Césarine s'était plu à faire à Popinot la surprise de se montrer dans cette toilette de bal dont il lui avait parlé maintes et maintes fois. Ainsi, l'appartement allait offrir à Birotteau le spectacle enchanteur qu'il avait savouré pendant une seule soirée. Ni Constance, ni Césarine, ni Anselme n'avaient aperçu de danger pour César dans cette énorme surprise. Ils l'attendaient à 4 heures avec une joie qui leur faisait faire des enfantillages. Après les émotions inexprimables que venait de lui causer sa rentrée à la bourse, ce héros de probité commerciale allait avoir le saisissement qu'il attendait rue Saint-Honoré. Lorsqu'en rentrant dans son ancienne maison, il vit au bas de l'escalier resté neuf, sa femme en robe de velours cerise, Césarine, le comte de Fontaine, le vicomte de Vandenesse, le baron de la Billardière, l'illustre Vauquelin, Il se répandit sur ses yeux un léger voile, et son oncle Pierrot, qui lui donnait le bras, sentit un frissonnement intérieur. « C'est trop !» dit le philosophe à l'amoureux Anselme. « Il ne pourra jamais porter tout le vin que tu lui verses !» La joie était si vive dans tous les cœurs que chacun attribua l'émotion de César et ses trébuchements à quelque ivresse bien naturelle, mais souvent mortelle. En se retrouvant chez lui, en revoyant son salon, ses convives, parmi lesquels étaient des femmes habillées pour le bal, tout à coup le mouvement héroïque du final de la grande symphonie de Beethoven éclata dans sa tête et dans son cœur. Cette musique idéale rayonna, pétilla sur tous les modes, fit sonner ses clairons dans les méninges de cette cervelle fatiguée pour laquelle ce devait être le grand final. Accablé par cette harmonie intérieure, il alla prendre le bras de sa femme et lui dit à l'oreille d'une voix étouffée par un flot de sang contenu « Je ne suis pas bien !» Constance, effrayée, le conduisit dans sa chambre, où il ne parvint pas sans peine, et où il se précipita dans un fauteuil, disant « Monsieur Audry, Monsieur Loraux !» L'abbé Loraux vint, suivi des convives et des femmes en habit de bal, qui tous s'arrêtèrent et formèrent un groupe stupéfait. En présence de ce monde fleuri, César serra la main de son confesseur et pencha la tête sur le sein de sa femme agenouillée. Un vaisseau s'était déjà rompu dans sa poitrine, et, par surcroît, l'anévrisme étranglait sa dernière respiration. « Voilà la mort du juste, » dit l'abbé Loraux d'une voix grave, en montrant César par un de ces gestes divins que Rembrandt a su deviner pour son tableau du Christ, rappelant Lazare à la vie. Jésus ordonne à la terre de rendre sa proie. Le saint prêtre indiquait au ciel un martyr de la probité commerciale, à décorer de la palme éternelle. Paris, novembre et décembre 1837.